Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux en ce dimanche matin. J'ai l'honneur de recevoir Gilles Kepel pour un entretien autour de son dernier livre, « Prophète en son pays », publié aux éditions de l'Observatoire. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous.
Alors, l'idée c'est donc de vous présenter. Je recherche juste, excusez-moi, parce que j'ai revu mes notes juste avant.
Sinon, je vais le faire moi-même.
Allez-y.
Non, au contraire, je préfère que ce soit vous. Mais je vous aiderai si ça.
C'est gentil. Alors, vous êtes docteur en sciences politiques et en sociologie, chercheur et professeur. Une liste de publications foisonnante.
Oui, passons là. Allons à l'essentiel.
Vous avez sillonné le monde arabe depuis le début des années 80 et avez été témoin des grands bouleversements que vous n'avez eu cesse de rapporter, mettant en garde ou prédisant même certains mouvements. On vous dit arabisant, orientaliste, spécialiste de l'islam et du monde arabe. On y reviendra
sur ce... Je ne sais pas qu'on me dit seulement, c'est que je le suis.
Ben justement,
Si je lui dis des choses très gentilles, je les traduirai plus tard.
On ne se rend pas compte de l'humour que vous avez en vous lisant, hein, parce que...
Au contraire, c'est un livre très humoristique. Enfin, s'il n'y avait pas d'humour, je ne serais plus là. Je me serais déjà tiré de mal dans la tête.
Mais en tout cas, vous revenez... C'est un livre quand même qui revient sur ce cheminement que vous avez fait, qu'il soit géographique, qu'il soit humain, qu'il soit intellectuel. Ça commence par quand vous êtes parti en Égypte, dans les années 80, et c'est là où vous avez commencé justement à être témoin de la naissance d'un mouvement embryonnaire à l'époque, qui est le mouvement des frères musulmans. Alors, une première question, juste pour commencer, la définition, c'est dimanche matin, donc on va y aller doucement, mais la définition de l'islamisme politique et de l'islamisme militant.
Si on commence par ça, il ne reste plus rien.
Non, en quelques mots.
Je vais le faire. Je vous remercie de votre présentation. Le titre lui-même est d'un jeu de mots, puisque prophète en son pays, ça fait allusion à la parole, puisque c'est bien juste après, vous allez tous à la messe. Ceci est un peu l'introduction pour les catéchumènes. Donc, j'attends que vous citiez toutes et tous Nemo propheta in patria. Voilà, donc, amen. Et personne n'est prophète en son pays, nul n'est prophète en son pays. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est, de manière un peu ironique et humoristique, je sais pas, apparemment je n'y suis pas arrivé, puisque vous découvrez que j'ai de l'humour, ah, bon, c'est une catastrophe, essayer de montrer que finalement, j'ai prêché dans le désert, d'une certaine manière, vox in deserto clamans, pour vous préparer encore à la messe de tout à l'heure, et une voix prêchant dans le désert. Et le paradoxe, c'est que ce livre est paru en septembre, et le 7 octobre, malheureusement, ce qui s'est produit avec la razzia holocauste, ou razzia pogrom, comme vous voulez, du Hamas dans la bande de Gaza, puis la rétorsion israélienne avec les bombardements massifs touchant aujourd'hui des civils, tout ce qui occupe aujourd'hui, focalise l'attention de la communauté internationale et nationale, puisqu'il ne va pas vous échapper qu'il y a aujourd'hui une manifestation à haut risque en France qui clive la société française selon d'autres lignes aussi, où on voit le Rassemblement national rejoindre cette manifestation et les anciens gauchos de la France insoumise, dont je faisais partie quand j'étais jeune, anciens gauchos, France insoumise, jamais, j'ai toujours été soumis. Mais le soumis qui veut dire musulman d'ailleurs, musulman veut dire soumis. Ce qui fait que les gens qui ironisent sur l'islamo-gauchisme de Mélenchon l'appellent la France soumise, c'est-à-dire désormais basculant dans l'alliance avec les frères musulmans et les salafistes. Et donc tout ça, malheureusement, ne fait qu'abonder dans le sens du livre. C'est ça qui est terrible, ce qui fait que je ne m'en plains pas personnellement, puisque je suis l'un des rares rescapés de l'effondrement de l'édition française à l'automne, et les gens viennent me voir en disant « on vous a vu à la télé bon. ». Donc, chacun pour soi. Mais j'ai essayé de reconstruire cet itinéraire précisément à partir de quelque chose pour lequel on ne prenait pas du tout au sérieux dès le début.
C'est ce que vous
à
dites.
Savoir, quand j'étais étudiant, lycéen d'abord, surtout gauchiste au quartier latin à Paris, on avait tous la barbe, enfin ceux qui avaient assez de poils pour avoir une barbe, c'est plutôt la barbe de Che Guevara, si vous voulez. Quoique Che Guevara, c'est en fait une famille libanaise qui a émigré en Amérique du Sud, ce qu'on appelait le Mahjar, l'émigration des Levantins, des Turcos en Amérique du Sud. Il s'appelait Jbara. Il était du sud du Liban. Enfin, donc, sa barbe était un peu arabe aussi, même si elle était gauchiste ou latino-américaine. Et donc, j'ai lu des articles à l'époque dans Le Monde, un journal que je lisais à ce moment-là, qui disait il y a des choses incroyables qui se passent à l'université égyptienne. La lutte contre Sadat, contre l'effondrement du système, la trahison par Nasser des promesses de l'indépendance, etc., est faite par des gars qui portent la barbe, mais du prophète cette fois-ci, non pas de Guevara, et des filles entièrement en niqab et en djilbab qui réclament l'application de la charia, etc. C'était très surprenant, c'est un paradoxe, si vous voulez, pour moi. Et moi, j'ai toujours aimé élucider les paradoxes. C'est-à-dire que je n'ai jamais essayé de construire une école qui, j'en avais sans doute pas les moyens intellectuels non plus, hein, mais qui construise un système de pensée et qui mette toute la réalité que je voyais dans des boîtes, dans des cases, faisant dans une architecture personnelle. Au contraire, j'ai essayé de toujours me remettre en cause et en fonction de ce que j'observais. C'est-à-dire, je suis un homme de terrain. J'ai passé ma vie sur le terrain. J'ai appris l'arabe pour justement avoir accès à la façon dont fonctionnaient avec leur système cognitif propre, issu notamment de catégories coraniques, de l'histoire de l'interprétation de ces catégories, mêlées aujourd'hui avec des catégories venant de l'Occident, etc. Mais si vous voulez, il me semble que reconstruire cet arc de sens, c'était très important pour comprendre, pour décrypter les événements. Je vous ai dit tout à l'heure, le 7 octobre, razzia, holocauste, si vous voulez. Parce que c'est perçu par les gens qui regardent ça, les téléspectateurs occidentaux, comme une sorte de remake d'un massacre de juifs, de la Shoah par balle ou de la destruction du ghetto de Varsovie. Mais dans l'imaginaire ancien partagé par un certain nombre de musulmans et surtout par ceux qui ont une vision complètement radicale du dogme, c'est une razzia. C'est une razzia comme l'attaque de Constantinople, le pillage, et comme, il faut bien se rappeler, par exemple, on va faire une interrogation en arabe où l'orientaliste sera l'examinateur, comment est-ce que Al-Qaïda appelait en arabe l'attaque sur New York et Washington ? Et non, Al-Ghazwatayn Al-Mubarakatayn, c'est-à-dire la double razzia bénie sur New York et sur Washington, vous voyez ? Et donc, l'imaginaire de la razzia, c'est quelque chose qui est très fort. C'est-à-dire qu'on va en faire une incursion en territoire ennemi, on tue les hommes, on prend en otage les femmes et les enfants. Genre. Et d'une certaine manière, c'est ce processus qui s'est déroulé à Gaza et qui même n'a pas été contrôlé complètement. Puisque d'après ce qu'on sait pour l'instant, on ne sait pas tout. Hein. Ça a été bien sûr planifié depuis environ un an et demi à l'instigation de la force Quds des Iraniens, des gardiens de la révolution iranienne, dans des espèces de territoires, de camps où avait été reconstituée une barrière pour savoir comment la détruire, comment la traverser, etc., en Irak et dans les zones chiites du Liban. Mais le déclenchement, dit-on, a surpris. Le déclenchement a, semble-t-il, été décidé à Gaza, sans ordre iranien. Et surtout, ça s'est fait dans le désordre. Ils ont très bien su faire sauter la barrière, etc. C'est de manière incroyable. Moi, j'ai traversé cette barrière 6 ou 7 fois dans ma vie parce que j'ai fait beaucoup d'entretiens avec les dirigeants du Hamas autrefois qui n'étaient pas exactement les mêmes qu'aujourd'hui. À l'époque, le Hamas n'était pas totalement sous la coupe de l'Iran. Et cette barrière était infranchissable. On la traversait, on était scanné complètement. Il y avait des machins électroniques partout, etc. Et là, la façon dont ils ont réussi à la détruire avec des drones qui ont bombardé chaque tour de contrôle à déchiffrer, à passer par-dessus avec les ULM, par la mer, etc., c'est quelque chose d'absolument hallucinant qui, évidemment, n'est pas à la portée du garagiste moyen du Hamas avec sa pince à son tournevis, si vous voulez. Hein. C'était très planifié. Mais apparemment, le succès inattendu de l'opération, parce que Netanyahou avait enlevé toute l'armée pour lui faire faire la police en Cisjordanie, pour le défendre, pour défendre les colons qu'il assure sa majorité, il vient de pas aller en prison. Donc ça a ouvert les voies d'une certaine manière, et sont arrivés toutes sortes de gens qui n'étaient pas prévus, qui sont venus avec leur flingue, des voisins de Gaza Nord, et qui ont commis une grande partie des atrocités qui ont été vues, qui ont enlevé des otages dans une perspective de razzia, d'une certaine manière. Ce qui fait que la masse des otages est un problème aussi stratégique pour Hamas. Il y en a trop. Ils ne savent pas comment les gérer. C'est un problème aujourd'hui pour eux. Donc, je vous donne juste quelques éléments comme ça à chaud. Mais quand on a une connaissance de la culture en question, je ne dis pas qu'il y a une culture unique arabo-islamique comme il y aurait une culture française, une culture... Vous êtes passé par les lycées de la mission au Maroc, non? Bon, donc vous êtes aussi polyculturel, comme moi aussi. Je suis tchèque, niçois, français, tout ce que vous voulez, arabisant. Donc nous composons tous, nous cousons tous ce que nous faisons. Mais c'est important de ne pas occulter une partie de cet héritage, et qui est important quand les prédicateurs le martèlent en permanence. Voyez. Donc moi, j'essaye de faire, par exemple, dans le cas du 7 octobre, c'est j'essaye de ramasser tout le matériau pour le penser complètement. Vous voyez ? C'est ça que je fais. Alors, je vais vous répondre, mais sur l'Égypte, je vous donne, si vous voulez bien, je vais vous lire la première page du livre. Comme ça, ça vous donnera une idée de quoi ça parle. Donc, on est en 1980, des siècles avant votre naissance, voilà. Et enfin, en tout cas, le siècle précédent... J'ai qu'on peut conscience que je ne m'adresse qu'au moins de 20 ans. Hein, alors, donc, septembre 1980. Je vogue en direction d'Alexandrie à bord d'un ferry italien qui a appareillé à Venise. Je vais rejoindre le poste de doctorant qui m'attend au Caire pour ma thèse sur les mouvements islamistes. J'ai 25 ans et j'inaugure ma vocation. J'ai plongé dans l'inconnu comme s'élance dans l'azur insondable le navire. Je sympathise sur le pont avec un jeune instituteur affecté à l'école française d'Alexandrie. Je l'envie. Son existence est tracée. Mais pourquoi ai-je précipité ma vie dans les aléas de cette fuite en Égypte ? Je songe à reculer. Le bleu où se fondent la mer et le ciel m'angoisse. Pourtant, il n'y a pas de retour possible. Le bateau est parti. Enfin, la ligne étale que dessine la côte sableuse à l'horizon, scandée par les hautes cheminées de la cimenterie du Meix, me rassérène. Nous nous perdons de vue à la douane avec mon compagnon de navigation pour nous retrouver 36 ans plus tard. Il recouvrera ma trace en apprenant ma condamnation à mort prononcée par un djihadiste de Daesh et me rendra visite à Paris depuis les Charentes où il coule sa paisible retraite, m'apportant un sachet de berlingot salé, spécialité du cru. Donc quand j'arrive en Égypte pour faire ça, j'ai 25 ans, je vais à la recherche de ces mouvements dont j'ai appris un certain nombre de choses en lisant les journaux et qui me semblent paradoxaux et stimulants. Il y a quelque chose qui se passe. C'est peu dire que je suis mal reçu par les collègues qui arbitrent les élégances, les Français du Caire, considérant que c'est nul et non avenu, que ces mouvements n'existent pas, que c'est une fabrication de l'impérialisme et du sionisme. Les intellectuels progressistes égyptiens avec qui j'avais des contacts de par mes antécédents gauchistes aussi considèrent que je m'intéressais à quelque chose qui n'a pas de sens, qui est sans intérêt, qui est un non pertinent, si vous voulez. Ah non, c'est un forum concurrent, mais on va parler plus fort, on va gagner le jeu. Et donc, tout ça se passe jusqu'à ce que Sadat soit assassiné, par cela même que je suivais, si vous voulez. Et un peu comme l'histoire de ce livre, personne n'y fait attention, et puis tout d'un coup, la réalité, malheureusement, ne fait que les montrer sa véracité. Donc, mon sujet de recherche, qui était inconnu, obscur et méprisé, devient le centre de l'intérêt mondial. Et des charters pleins d'étudiants américains débarquent pour commencer des thèses là-dessus, mais j'ai 2 ans d'avance. Et donc, je publie tout, assez rapidement dès mon retour en France. Donc, vous voyez, c'est ça le phénomène. Alors, qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est que les mouvements islamistes ? J'ai répondu à votre question en essayant de vous montrer comment je suis entré dans le... Je ne doutais pas que vous compreniez. Dans la conceptualisation des choses à partir du terrain. C'est toujours comme ça. Le terrain, la langue. Par exemple, j'avais accepté, pour mon travail en Égypte, de me charger d'un peu de coopération culturelle franco-égyptienne. Et je faisais la coopération avec l'université d'Assyut, en Haute-Égypte, qui était dans l'Antiquité une ville très importante, aujourd'hui abandonnée par le nasserisme, et qui était un foyer de mouvements islamistes. Et alors j'allais, faisais des cours à la fac qui n'intéressaient à peu près personne, et je donnais des bourses, ça intéressait davantage, pour venir en France. Donc tout le monde venait me parler. Donc des jeunes qui racontaient leur vie, c'était absolument passionnant, ce qui impliquait évidemment de connaître l'arabe et les dialectes égyptiens, mais ça... J'ai un de mes adversaires, Olivier Roy, qui partait, expliquait toujours que l'histoire de Kepel n'intéresse personne. Ça ne sert à rien de connaître l'arabe pour comprendre ce qui se passe dans l'islam en France.
Vous l'avez écrit.
Un fameux apophtègme. Alors, c'est compliqué quand on dit être universitaire de commencer une déclaration par « ça ne sert à rien de connaître ». Il vaut mieux être imprudent parce que ça peut vous retourner vite dans la figure. Et non, si on peut parler de n'importe quoi sans rien savoir, mais c'est plutôt une prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire que comme je ne connais pas l'arabe, je dis que ça ne sert à rien de le connaître, dit mon adversaire. Donc, en l'occurrence, c'était faux. Et ensuite, quand je suis revenu en France, mon patron de l'époque, Rémi Levaux, qui avait d'ailleurs très connu au Maroc, qui est décédé maintenant parce qu'il a écrit le grand livre sur le système politique marocain au début de l'indépendance, le fellah marocain défenseur du trône, qui expliquait comment Hassan II s'était appuyé sur les classes rurales pour lutter contre la bourgeoisie citadine qui n'était pas très monarchiste à l'époque, et la détruire. Et il faisait des allers-retours entre Paris et l'Égypte, et il me dit, venez, regardez Gilles, il y a quelque chose de bizarre, encore un paradoxe. Bon, je vois que les cheveux sont un peu gris aujourd'hui, donc vous vous souvenez, 1981, ça vous dit quelque chose. Éloignez-vous de la conversation. Donc, c'est-à-dire François, premier septennat de François Mitterrand. Et grève partout, c'est le début de la mondialisation et de la délocalisation. Et des ouvriers font la prière sur le parking des usines occupées de Renault, Talbot, etc., en bleu de chauffe dirigé vers la Mecque. Qu'est-ce que ça signifie ? Paradoxe. Et donc, je vais commencer à étudier ça avec les catégories que j'ai construites en Égypte. Si vous voulez, je viens étudier un phénomène français, enfin qui se passe dans l'Hexagone, avec ces catégories. Alors que la quasi-totalité des sociologues de l'immigration considéraient que la question islam était totalement non pertinente. Que la grève, c'était dû à l'exploitation, le surplus, l'extorsion du surplus à l'échelle mondiale, etc. Des catégories marxistes ou économistes, si vous voulez, mais qui n'intégraient pas la dimension à laquelle je vais m'intéresser. Et ça donnera en 1987 mon livre Les banlieues de l'islam, qui c'était le premier, si vous voulez. Alors depuis, il y a eu des centaines de machins sur l'islam en France, la plupart s'acharnant à démontrer que j'avais tort, d'ailleurs. Mais et c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné, si vous voulez. Dans une relation compliquée avec l'institution, qui n'aimait pas la Sorbonne, si on prend ça comme métonymie de l'université française, déteste la prophétie. D'ailleurs, la prophétie est perçue comme quelque chose qui est en dehors de l'Église établie. Et dans l'ère le prophète, il y a le charlatan, le faux prophète, si vous voulez. Et bon, on a été obligé de... Je suis au sommet de la carrière universitaire, je suis professeur de classe exceptionnelle, etc. Donc, mais, parce qu'on ne pouvait quand même pas me mettre complètement sur le côté, mais ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, par exemple, je suis foutu dehors de l'école normale supérieure pour non-wokisme. Alors, ils prétextent que c'est autre chose. Et on a supprimé les études arabes à normale sup pour les remplacer par des enseignements sur le sud global, c'est-à-dire le global south, comme si c'était quelque chose de donné, si vous voulez. C'est, s'il y avait une réalité qui s'appelait le Sud global. Il y a des militants qui parlent de Sud global, ils ont raison de le faire, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on voit dans l'université, l'idéologie se substitue à la recherche de la connaissance. Quelle est la différence ? Moi, je ne pars pas d'une vérité établie. Je pars justement de la volonté d'élucider des paradoxes, de les comprendre. Je vais vous donner le petit exemple du 7 octobre. Vous voyez ? On a un donné. Comment est-ce qu'on arrive à le déconstruire ? J'utilise le vocabulaire même de Derrida, dont s'empare le woke. Alors que l'idéologie, elle, connaît la vérité d'emblée et elle va tordre la réalité pour la faire rentrer dans les catégories préétablies. Vous voyez, à mon avis, c'est le contraire de la démarche cognitive, la démarche qui est la production du savoir et de la connaissance sur les faits sociaux. Je vous ai abasourdi avec tout ça.
J'ai plein de questions, du coup, qui ne sont absolument pas préparées, mais du coup, ça va faire...
Mais allez-y, c'est le dialogue, il ne faut pas préparer les questions.
Par exemple, quand vous avez dit, donc vous faisiez cette introduction pour dire que vous vouliez penser le mouvement dans sa globalité, me venait une question de le monde arabe. Alors, vous dites, votre vocation, d'ailleurs, c'est le monde arabe. Le monde arabe, alors déjà, quelle est sa définition ? Est-ce que c'est homogène ? Est-ce que le Maroc et l'Arabie saoudite peuvent se mettre dans le monde arabe avec toutes leurs différences, par exemple ? Je prends les deux extrêmes géographiquement, bien évidemment. Et question subsidiaire, si la réponse est non, comment ça se fait que ces mouvements islamistes aient réussi à percer ? Alors, comme tout le monde l'a compris, j'ai grandi au Maroc et j'ai vu une différence, effectivement, entre les années 90 où j'ai grandi et quand je reviens chez mes parents à Casablanca aujourd'hui, il y a effectivement pas forcément une montée de il y a une espèce oui, il y a plus de voile, il y a plus de... Alors je ne sais pas si c'est ça l'islamisme, on peut aussi appeler...
Entre autres.
L'islamisme, parce qu'il y a l'islamisme politique qui est dans les institutions, ça on est d'accord, mais il y a aussi l'islamisme...
De la vie quotidienne.
De la vie quotidienne. Mmh. Et il y a un espèce de repli, effectivement, et la troisième question, comme ça je vous pose toutes les questions.
Allez-y.
La troisième question, c'est pourquoi ? Enfin, on parle, on est dans le constat, mais je n'ai jamais encore lu ou compris ces mouvements, ils ont été forcément, ils sont nés d'un malaise. Ils ne sont pas nés en se disant, moi je ne crois pas que ces gens-là aient réellement une piété énorme, parce que c'est pas une idéologie pour la religion, c'est une idéologie pour le pouvoir, pour la politique, pour ces choses-là.
Donc, comme toutes les religions.
Oui, bon, c'est un autre débat. Mais du coup, est-ce que on est dans la post-indépendance, les colonies sont décolonisées justement, notamment les anciennes colonies françaises.
Le sont-elles ?
Un autre débat.
Je continue.
Donc, en gros, est-ce que, oui. Si je résume les questions, est-ce qu'il y a une globalité
compris. J'ai compris. Mais je suis vieux, mais ça va plus lentement, si vous voulez, mais j'arrive. J'arrive quand même. Donc,
c'était pas du tout.
Non, mais c'est très bien parce qu'en fait, au fond, c'est le rôle, ça s'est renversé entre nous. Vous avez remarqué. C'est moi qui vous contraint à vous poser des questions sur votre l'un de vos deux pays, parce que là, j'en peux répondre aussi. Je vous dis non, mais c'est normal. C'est vous en discutant avec moi émergent chez vous des questions que vous vous posiez. Vous me dites quand je reviens au Maroc, je me rends compte que c'est plus pareil. Il y a quelque chose qui a bougé, qui a changé. Quelle en est la signification ? Ça, c'est très important, c'est très intéressant. Moi, je suis ravi que vous vous posiez des questions comme
oui,
ça.
Oui, mais je questionne surtout la naissance. Est-ce que ça s'est
oui,
pas...
Oui, voilà. Je suis entièrement d'accord avec vous. Ça, c'est la fin. Je ne sais pas si on y arrivera, mais ça n'a pas d'importance. Il faut sortir d'un bon repas avec un peu d'appétit. Et si on dit tout sur le livre, personne ne va l'acheter. Donc il faut absolument que vous soyez avec moi, sans qu'on le, on va pas vous le dire, sans qu'on le dise au public ici, pour qu'il y ait une petite frustration qui se traduire par la signature des exemplaires qui restent. Et il y en a moins que le nombre de gens qui sont dans la salle. Donc précipitez-vous, et surtout ceux qui pensent aux cadeaux de Noël, aux petits-enfants, ou qui vont acheter 5 ou 6, ça va être... Et surtout, les prix vont augmenter. Hein, donc le... mais non.
Vous avez appris à négocier au Maroc.
Sourria. Ah ben, Si moi je disais une chose pareille, qu'est-ce que je n'entendrais pas comme, nourri de stéréotypes et de préjugés. Bon, mais vous voyez, c'est bien. Bon,
moi, si j'ai
vous voyez,
le droit.
Vous voyez, ah oui, c'est voilà, c'est incroyable.
Je plaisante.
On a tous les droits parce qu'on est une jolie femme, parce qu'on est marocaine. Moi, je n'ai plus aucun droit. Je ne suis plus qu'un vieil homme blanc légèrement dépassé. C'est ça, comme disait Beck Bédé. Je vous signale, ça vous amuse, que j'ai hier soir été diffusé un enregistrement que j'ai fait justement avec l'hétérosexuel blanc légèrement dépassé, c'est-à-dire Frédéric Beck Bédé, sur Radio Classique, qui est assez drôle. Je l'ai écouté ce matin en me réveillant. Si ça vous amuse, regardez, si vous avez envie de prolonger cet échange. Bref. Première question. Non, alors, moi, je vais aussi utiliser des stéréotypes, comme vous. C'est-à-dire que je pense à l'arabe, c'est-à-dire en spirale, à force d'avoir lu de la littérature arabe. Mais j'y arrive. Hein. J'arrive quand même du point A au point B. Mais au lieu d'aller comme ça, je fais comme ça. Non. Jusqu'au moment où je ne vais plus y arriver parce que je ne me souviendrai plus de ce que je viens de dire. Ce moment est proche, mais on espère que ça ne va pas se passer ce matin à Brive-la-Gaillarde à propos de douzaines d'oignons. Rappelez-moi la question. Donc, est-ce qu'il y a un monde arabe unique, ce qu'on appellerait dans l'idéologie qu'on serait né dans l'école municipale à côté de chez vous, ce qu'on appelle en arabe « wahda arabiya », c'est-à-dire l'unité arabe, ou dans le langage des nationalistes, des baassistes, des nassériens, « menel khalij et l'al-muhit », c'est-à-dire du golfe à l'océan. L'océan, c'est vous. Et le khalij, c'est l'Arabie saoudite. Alors, il y a évidemment des éléments communs qui traversent ça, et par exemple, je vous donne un petit élément, je crois que je l'ai dans l'Express la semaine dernière, ou en ligne, j'ai publié une analyse du discours de Hassan Nasrallah. Vous voyez qui c'est, le chef du Hezbollah. Qui s'exprime en un arabe assez agréable à entendre, qui simplifie la grammaire, qui est compliquée en arabe. Donc n'importe qui peut comprendre, même s'il n'est pas très éduqué, mais qui utilise un vocabulaire technique politique extrêmement précis. Et il était le seul dans le monde arabe à arriver à tenir un discours écouté par tout le monde depuis le Golfe jusqu'à l'océan. Vous voyez ? Il a réussi à s'emparer du discours et à l'unifier. Alors après, il y avait d'autres discours, mais aucun n'a eu la même résonance avec la mise en scène. Ils ont annoncé à l'avance, et tout le monde l'écoutait à Casa. Hein. Mon fils vit à Rabat, et donc j'ai des informations directes sur le Maroc aussi. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit qu'il fallait... que la guerre mondiale était possible, qu'il fallait absolument qu'Israël fasse des concessions, voire soit détruit, que l'Iran était une force incontournable, etc., etc. Donc là, vous avez un individu qui s'efforce de créer une unité factice sous sa houlette du monde arabe. D'autant plus paradoxal qu'il est chiite et non pas sunnite, et que seulement 15% des musulmans à travers le monde sont chiites. Mais en prenant la parole ainsi... Il veut mettre de côté, si vous voulez, sa spécificité chiite et s'adresser à l'ensemble des musulmans. Pourquoi ? Pour les faire passer discrètement sous la houlette de l'Iran contre l'Arabie saoudite. Donc vous voyez, donc vous avez à la fois des ferments d'unité et une aspiration à une certaine unité dans le monde arabe. Et en même temps, chacun le poursuit en fonction de ses buts politiques propres. Quand il fait ça, Nasrallah, il est contre qui ? Bien sûr, contre Israël, contre l'impérialisme, contre le sionisme, contre je ne sais pas ce que vous voulez, le colonialisme, mais surtout aussi contre l'Arabie saoudite. Pour tenir un discours arabe qu'il prétend être le discours maître, le discours dominant, et dire les Saoudiens, en filigrane, les Saoudiens sont des traîtres, ils s'apprêtaient à pactiser avec l'entité sioniste, ils avaient reçu deux ministres israéliens, et ils allaient bientôt faire une alliance avec Israël qui leur permettrait de disposer d'un système d'armement type dôme de fer pour ne pas être emmerdés par les missiles tirés par les proxys de l'Iran depuis le Yémen ou l'Irak. Et ça aurait considérablement affaibli l'Iran. Oui, donc, en fait, il y a les deux. Il y a une aspiration à l'unité qui est présente et sur laquelle jouent un certain nombre d'entrepreneurs identitaires. Et il y a aussi... les aspirations à la diversité. Alors, le Maroc en étant un exemple très important parmi nous, surtout parmi le Maghreb, puisque dans l'identité marocaine telle qu'elle est promue par le Marzen, c'est-à-dire par le pouvoir marocain, mais qui est assez fréquemment reflétée dans la population, vous avez que le Maroc est un pays qui est profondément berbère, dans lequel il y a eu aussi une culture juive, etc. Aujourd'hui, quand le Maroc fait des expositions, par exemple, l'Institut du monde arabe à Paris, c'est écrit en français, en arabe, antifinar, c'est-à-dire la langue berbère écrite, que presque personne ne sait lire, en tamazirt plutôt, enfin tamazirt, antifinar, c'est un des dialectes, et également en hébreu. C'était aussi l'une des choses qui ont permis au Maroc, par exemple, de. C'est au nom de ça que le Maroc a été signataire du pacte d'Abraham avec Israël, ce qui lui a permis au passage de récupérer des armements ultramodernes qui font que si les Algériens bougent leur vieux char soviétique T-54 à la frontière du Sahara, ils sont réduits en, je ne sais pas quoi, en couscous ou en tagine ou en bouillie avant même que le type ait allumé la clé dans le moteur, si vous voulez. Mais aujourd'hui, le Maroc se trouve très embêté par rapport à ça, parce que vous avez tous les jours des grandes manifestations dénonçant le sionisme, l'alliance avec Israël, réclamant la rupture des relations. Donc, vous avez une... Et puis, vous avez aussi, par exemple, une grande manifestation anti-israélienne au Maroc. Je ne sais pas si vous avez suivi récemment à Casablanca ou à Rabat, je ne sais plus, où, pour la première fois dans l'histoire du Maroc, c'était... En fait, les islamistes s'en étaient servis pour reprendre du poil de la bête, si je puis dire, face au pouvoir. Et vous aviez les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Chose qui ne s'était... Vous me disiez, chaque fois que je reviens, je vois que ça a changé. Je ne sais pas si vous avez déjà vu au Maroc une manif de masse, pas juste une manif de quelques barbus et voilés dans un coin, où, au nom de la lutte contre le sionisme et contre l'entité israélienne, finalement, les islamistes s'en servent, vous voyez, pour faire passer leur mot d'ordre selon lequel les femmes et les hommes ne sont pas ensemble. Quand je faisais cours à la fac d'Assiout, c'était déjà comme ça, donc c'était pas comme vous tout mélangé. L'amphithéâtre incite à la concupiscence, évidemment. C'était les hommes d'un côté, les femmes devant. Il va sans dire que les hommes étaient devant et les femmes derrière. Mais donc, et là, il y avait les deux manifs séparés, hommes puis femmes, vous voyez.
C'est possible, je suis pas d'accord, mais je suis pas d'accord, c'est pas avec vous, je suis pas d'accord avec le fait que.
Ah oui, voilà. Bien sûr, oui, mais c'est.
Il n'y avait pas que ça, c'est ça que je veux dire.
Oui, bien sûr, voilà, mais il y avait. Vous avez raison. Mais c'est aussi l'opportunité pour ces mouvements d'utiliser cette cause, dont je ne discute pas qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, d'utiliser cette cause qui mobilise un certain nombre de gens et qui se sentent solidaires des Palestiniens bombardés. Mais c'est aussi une manière pour les islamistes marocains d'utiliser ça pour faire pression sur le pouvoir. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire. Il y a une unité, il y a à la fois dans mon arbre, il y a une tension permanente entre les spécificités de chaque pays et à l'intérieur. Par exemple, le Liban est un pays arabe, enfin, quoique tous les Libanais n'en sont pas convaincus, mais... qui est aujourd'hui, qui n'existe plus comme État, créé par la France pendant le mandat, dans l'entre-deux-guerres, où vous avez... En fait, le Liban est passé sous le contrôle politique du Hezbollah, qui est le plus important parti, qui est armé par l'Iran, ce qui explique entre autres la ruine du Liban, parce que le Liban tenait du négoce, et tant que le Hezbollah contrôle le Liban, les Saoudiens ne mettent plus un centime dans le Liban, précipitant le pays dans la ruine, et au passage, une partie des élites libanaises qui tenaient les banques ont décidé qu'ils faisaient un hold-up sur la banque. Vous mettez votre argent dans une banque au Liban, vous ne pouvez plus le ressortir. Le principe de la banque, c'est que vous puissiez quand même... Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question 1 ?
La première, oui. Il reste 10 minutes.
Et il y a aussi les questions de la salle ?
Alors, si il y a des questions, il faut les faire maintenant, parce qu'on doit libérer... Je ne sais pas... Les organisateurs, pouvez-vous me dire si on peut déborder des 45 minutes ? Oui. Donc, vous pouvez continuer, puis on pourra peut-être passer la parole.
Alors, la deuxième question, non, je ne me souviens plus ce que c'était, vous non plus, bon.
La deuxième question, c'était, alors, si la réponse est non, qu'il n'y a pas d'homogénéité, comment est-ce que...
vous avez répondu avec la Hezbollah. Non, ni oui, justement, c'était l'un et l'autre.
Et puis la naissance, dans le sens... Alors, on remarque quand même que... les naissances de ces mouvements ont coïncidé avec aussi le besoin de s'affirmer vis-à-vis d'un passé de colonisé, souvent. Alors, il y a ça, et il y a. Donc, est-ce qu'il y a un lien avec ça? Et puis, quel est le rôle des puissances étrangères, vous le dites dans votre livre, pour financer ces mouvements? Et pas que l'Arabie Saoudite ou l'Iran. Vous parlez de la CIA, qui ont financé les moujahidines. C'était pas les djihadistes, les moujahidines en Afghanistan. Quelle est la responsabilité
d'accord,
aussi
de ces puissances? Alors, moujahid et djihadiste, en fait, ça veut dire la même chose. Ça veut dire combattant du djihad. Moujahidine, c'est le terme arabe. Ou persan ou autre, c'est le participe passé actif, si j'ose dire. Un mujahid en arabe, c'est un combattant du djihad. C'est la même racine, J-H-D. Hein. Jihad, jahada, mujahada. D'accord ?
C'est aussi l'effort d'interprétation.
Voilà, oui, non, mais ça, en l'occurrence, oui, c'est aussi bon. C'est assez l'ijtihad, c'est assez différent. C'est encore une autre racine, un autre schéma. Mais le djihadisme, en fait, c'est votre serviteur qui a inventé le terme il y a très longtemps, mais je le laisse dans le domaine public, pour distinguer. Justement, ceux qui se réclamaient d'un combat contre l'envahisseur étranger, si vous voulez, on appelait les moudjahidines, mais les combattants algériens de la guerre d'indépendance s'appelaient aussi des moudjahidines. Puisque, en réalité, sous le langage marxiste du FLN, ils avaient récupéré aussi tout l'imaginaire islamique pour convaincre des gens simples qui n'avaient jamais entendu parler de Marx en Algérie de lutter pour chasser les infidèles de la terre qu'ils occupaient en Algérie. Il y a aussi ce registre, si vous voulez, qui a été mobilisé par la lutte contre l'indépendance. Et si vous lisez les textes du FLN, mais c'est aussi dans tous les mouvements d'indépendance, en Algérie, en Tunisie, mais même au Maroc, vous avez une superposition de registres importés des catégories du discours progressiste, marxiste, de gauche, si vous voulez, en Occident, et en même temps qui est mêlé avec une culture qui est plus profonde et qui fait le lien avec ce qui a été enseigné au Kottab, c'est-à-dire à la Medressa, à l'école religieuse, et qui permet de mobiliser les masses de façon beaucoup plus large que les seuls élèves du lycée français. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc ça, c'est... Alors, vous avez raison, la CIA a encouragé le djihad en Afghanistan pour faire tomber les communistes. Parce que il y avait un régime en Afghanistan qui bénéficiait donc du soutien de l'URSS et le mélange entre le... Alors le financement venait principalement de l'Arabie Saoudite, mais la CIA fournissait l'encadrement et l'entraînement. C'est ce qu'on appelait à l'époque en anglais « the dollar for dollar match », c'est-à-dire un pétrodollar contre un dollar CIA, vous voyez. Et du coup, les Américains s'en sont tirés pour pas très cher, puisque le djihad en Afghanistan, en 1989, a abouti à la chute de Kaboul. L'armée rouge s'est retirée de Kaboul le 15 février 1989. Et quelques mois plus tard, c'était l'effondrement du mur de Berlin, puisque l'armée rouge n'était plus qu'un tigre de papier. D'accord ? Mais vous voyez, je vais aller plus loin dans votre raisonnement encore, personne ne s'en est rendu compte. Vous n'étiez pas né, donc vous n'étiez pas responsable, pas coupable, si j'ose dire. Moi, j'étais déjà né et j'avais 34 ans. Donc, j'étais à peu près, je savais lire et écrire, je connaissais l'arabe, j'avais écrit déjà deux livres sur la région. Et même moi, je n'ai pas compris à ce moment-là. Personne n'a fait attention au 15 février, retour de jour de la déroute de l'armée rouge, départ de l'armée rouge, j'avais 10 ans. Pourquoi ? Parce que, si vous soufflez, personne, vous êtes trop bon élève. Hein. Et parce que la veille, le 14 février 1989, s'était produit quelque chose qui a créé un scandale au même titre que le 11 septembre et d'une certaine manière que le 7 octobre, qui est le troisième terme de cette année. Alors que s'est-il passé le 14 février 1989? Donc, vous avez déjà soufflé, j'espère tout le monde. Donc quand je posais la question, quand je faisais j'étais enseigné en amphi à Sciences Po, donc, contrairement à vous, ils étaient dans la terreur d'avoir une mauvaise note, donc je dis, que s'est-il passé? Donc tout le monde regardait ses pieds, évidemment, pour que je ne dise pas vous, et puis, bon, à l'époque, on disait une jeune fille rougissante au premier rang, maintenant, après MeToo, on n'a plus le droit de dire ça, /E/étudiant/E/6/transgenre, dit en rougissant, Thieu, c'était la Saint-Valentin. J'ai dit oui. Oui, Yael, je ne sais pas comment on doit dire maintenant, Yael. Oui, Yael, vous avez raison, mais ce n'est pas la bonne réponse. C'était la date de la fatwa contre Salman Rushdie. Et c'est exactement la réponse à votre question aussi. La même chose, dire est-ce que le monde est unique ou pas, etc. Rushdie, par le coup de force de la fatwa, obnubile, ce qui veut dire chassé par des nuages quelque chose, et non pas obsédé, comme on croit, obnubile le lendemain. On ne voit pas la victoire des sunnites, soutenue par la CIA le lendemain, mais on voit la victoire de Khomeini qui tire le tapis sous les pieds des sunnites et qui s'empare du vocabulaire islamique qui dit « pour défendre les musulmans opprimés, il faut attaquer Rushdie qui a blasphémé le prophète ». Vous voyez ? Et les Saoudiens et les djihadistes sunnites sont les dindons de la farce dans l'affaire. Et c'est pour ça, entre autres, qu'il y aura le 11 septembre. Et si vous lisez, comme je l'ai fait, Zawahiri, surtout, qui est l'idéologue du Ben Ladenisme, Ben Laden n'écrivait pas beaucoup, il explique qu'on s'est fait avoir. On a combattu pendant 10 ans, enfin nous, les gens qu'on aidait, et c'est les Khomeini, par une simple fatwa, c'était peu d'investissement, ils ont tiré le tapis sous les pieds. Et il faut gagner la bataille médiatique. Et c'est ça qui va faire, outre l'échec des djihad en Algérie, en Égypte, en Bosnie dans les années 90, le 11 septembre, conçu comme un événement médiatique qui s'empare de ce qu'est à l'époque la clé du système de diffusion, c'est-à-dire la télévision par satellite. Le 11 septembre, c'est une attaque où vous avez Hollywood qui arrive au journal le 20h. Enfin, il y avait à l'époque un journal le 20h, ça n'existe plus aujourd'hui. C'est-à-dire on a des avions, les tours infernales. Ensuite, on va changer de logiciel. On va passer dans le monde des réseaux sociaux. Les massacres de Daesh, par exemple, et de même celui du 7 octobre, d'une certaine façon, sont... c'est plus du tout c'est de la télé parcelle, c'est des réseaux sociaux. Mohamed Merah, pas très loin d'ici, en 2015, les types de Daesh qui égorgeaient des gens en Syrie, ou ce qui s'est passé le 7 octobre, où ils avaient presque tous des caméras embarquées, des GoPros, c'est destiné à s'emparer des réseaux sociaux et à faire la différence sur les réseaux sociaux. Vous voyez comment je termine par une anecdote pour montrer que tout le monde... Un jour, j'ai dîné avec Salman Rushdie. Je raconte ça dans le livre à Princeton. Un ami commun avait organisé une conférence. Bon, lui avait 10 000 personnes, moi 150. Bon. Et on se trouve à dîner à table au Faculty Club. Ils nous mettent l'un à côté de l'autre. À côté de Rushdie, il y avait une très jolie femme. De l'autre côté, et à sa droite et à gauche, moi. Bon, je comprends qu'il avait plutôt intérêt de partir, la personne vers sa droite, c'est tout à fait normal. Ça, je crois que c'est pas MeToo, je vais me faire coller un MeToo, le MeToo à Brive. Et donc, c'était la réalité. Et puis, bon, il était très occupé avec sa voisine, et à un moment où il était en train de déglutir, je lui dis, au fait, savez-vous pourquoi ? Je lui dis, au fait, moi, j'ai eu une fatwa aussi. Bon, j'étais condamné à mort par Daesh en ce moment, sous protection policière, et il m'a regardé avec un mépris considérable, comment un minable comme moi, dont il n'avait jamais entendu parler, encore moins de sa condamnation à mort, pouvait se comparer avec lui qui était la première, la grande, la seule, la vraie fatwa. Bon, okay, très bien. Puis, il m'a gassé un peu, et je lui ai dit, écoutez, est-ce que vous savez pourquoi vous avez été condamné à mort le 14 février ? Il me dit, so what ? Qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Et je lui ai dit, parce que c'était la veille du 15 février. Il m'a foutu ce connard à ma gauche, enfin que moi, où je dis, espèce de nul, qui se crée que con de français. Et il dit, so what? Et je lui dis, parce que c'était justement la date du retrait soviétique d'Afghanistan, poussé dehors par les moudjahidines sunnites. Et comme ça, Khomeini, en faisant votre fatwa, vous a instrumentalisé pour lutter contre le sunnisme et s'emparer du discours sur le monde musulman. Il m'a regardé avec quelque chose, ce qui passait dans son regard n'était pas de la tendresse et de l'affection. Et ensuite, il s'est retourné vers la jolie femme qui était à sa droite, ne prenez pas ça pour un pass, et du coup, voilà, le dîner s'est terminé. Donc vous voyez, lui aussi n'avait pas bien compris que le monde arabo-musulman pouvait être à la fois pluriel, multiple, et avec des gens qui s'efforcent de s'en emparer, si vous voulez, idéologiquement, par l'unité. Et moi, mon travail, c'est d'essayer de faire des choses comme ça, de comprendre comment s'articulent des représentations, comment s'articulent des modes de fonctionnement. Quand vous dites les mouvements idéologiques sont aussi une forme de libération anticoloniale, etc. C'est vrai, non, mais je ne vous caricature pas. C'est vrai qu'il s'en est porteur. Et ce à quoi on assiste aujourd'hui, par exemple, dans le cas du Maroc, c'est ce discours, c'est une manière aussi, se référer à l'islam, c'est une manière de dire nous avons une légitimité intellectuelle, politique, etc., qui est antérieure à la colonisation, qui ne doit pas apparaître comme la seule forme de modernité. Nous nous sommes à même de construire notre modernité contre vous. Mais c'est aussi, quand les mouvements islamistes apparaissent dans l'Égypte 1980, c'est peu de temps après la mort de Sadat, de Nasser, si vous voulez. Et c'est aussi, et d'abord, un mouvement de réaction anti-nassérienne, c'est-à-dire contre le socialisme nassérien arabe appuyé sur l'Union soviétique, qui a complètement ruiné le pays, amené la dictature, l'oppression, etc., et la misère, alors que l'indépendance était porteuse, les guerres d'indépendance, d'un avenir meilleur. Et vous en perdez votre téléphone. Donc voilà ce que j'essaye de faire. J'essaye de construire l'interprétation des phénomènes que nous observons. Ce qui ne me vaut pas que des amis. Puisque là, par exemple, dans la situation actuelle, pour l'instant, je peux être tranquille, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde, finalement, qui peut tenir un propos explicatif assez large sur le discours actuel. C'est pour ça que je suis omniprésent dans les médias, je pense. Mais après, c'est un discours qui gêne ceux qui ont une cause à pousser contre un autre. C'est pas que je n'ai pas des sympathies moi-même, mais c'est pas l'objet. Ce que je pense, tout le monde s'en fout, et c'est normal, ça concerne moi. Ce qui est, je pense, le rôle d'un universitaire, même futur ex-universitaire foutu dehors sous les horions des woke, c'est de fournir à ceux qui, dont ça n'est pas le métier, vous-même, vous vous intéressez à cette question, ça vous préoccupe beaucoup, vous trouvez que le 7 octobre est une monstruosité, et en même temps vous êtes perturbé par les massacres de civils, par les bombardements. Donc où est-ce qu'on en est? Alors, je ne dis pas que je vais vous donner la solution, mais moi ce que j'essaie de faire, c'est de vous fournir les éléments qui vous permettent de vous faire finalement votre opinion en disposant de du plus grand nombre de connaissances possibles. Vous voyez? Puisque d'autant plus aujourd'hui où on est dans l'univers des réseaux sociaux, c'est-à-dire que 90% des informations que les jeunes qui ne lisent plus aucun livre... J'ai vu très peu de gens de moins de 30 ans, disons 25 ans à la Foire du Livre, dans cette salle en particulier, mais c'est parce que c'est dimanche matin.
Il y a une autre salle à côté pour la jeunesse aussi.
Voilà, c'est ça, oui. Les jeunesses, c'est entre 50 et 35, c'est ça. Et les réseaux sociaux ne sont pas sourcés. Et donc, sont propices à toutes les manipulations. Et tout le monde qui dit réseau social dit fake news. Et donc, c'est extrêmement difficile. Donc, moi, ce que j'essaie de faire, c'est un travail de déconstruction. Donc, je suis finalement très woke, à ma manière, puisque eux se basent sur la déconstruction inventée par Derrida, mais une déconstruction qui ne s'adresse que au discours occidental. Qu'il faille le déconstruire très bien, Alain Sahlan, mais il faut aussi déconstruire les discours islamistes, ou les discours sionistes. Et donc... mais simplement, à partir du moment où vous essayez d'ouvrir le spectre large, les défenseurs de la chapelle idéologique qui tiennent l'université aujourd'hui vous disent dehors, tu es un ennemi de l'humanité. Et voilà. C'est une histoire triste. J'ai essayé de faire ça en style mille et une nuits pour vous plaire, mais vous voyez, c'est une triste histoire. Mais Scheherazade, comme là, on arrête parce que chez Razada, et après, comme ça, les lecteurs vont acheter des livres. Vous comprenez le...
Je fais comme
Khomeini, voilà. Merci.
Alors, j'imagine qu'il y aura des questions.
Alors, attendez, il doit y avoir une jeune personne va vous apporter un micro.
Merci. Travail. S'il vous plaît, est-ce que vous pensez qu'il existe un parallélisme entre l'apparition de ces mouvements dont on a parlé là pendant une heure et le fait qu'il y ait eu un affadissement des idéaux de nos pays occidentaux sur le plan politique, les gens qui sont socialistes, qui sont capitalistes et qui n'ont pas su passer un message vis-à-vis de ces pays?
Alors, en effet, par exemple, quand je vais en Égypte, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire que les mouvements islamistes sont porteurs d'une remise en cause radicale du socialisme nassérien. C'est très clair. Et en même temps aussi des idéaux issus de la Révolution française, si vous voulez, voyez. Et à l'époque, j'avais appelé ça l'affrontement entre deux ordres. L'ordre transcendantal, c'est-à-dire celui qui se réfère à un appareil intellectuel, idéologique, basé sur les Écritures saintes, le Coran, le Hadith, la Sunna du côté musulman, d'un côté, et puis l'ordre traduit, c'est-à-dire ce qui est venu non pas de l'au-delà au sens du ciel, mais de l'au-delà des mers, voyez, c'est-à-dire qui est arrivé avec les traductions du français, de l'anglais, voire du russe, vers l'arabe, et qui a nourri une grande partie de l'intelligentsia des pays colonisés à l'époque. L'émancipation s'est en fait, généralement, dans un premier temps, la plupart des mouvements indépendantistes étant imbus des idéaux venus d'Occident, venus d'Europe à l'époque, mais à qui on reprochait de ne pas les être mis en place dans les pays, vous dites démocratie, liberté, égalité, fraternité en France, mais qu'en est-il du système colonial en Algérie, au Maroc, en Tunisie? C'était ça l'idée, vous voyez. Donc, les indépendances, dans une grande partie des acteurs de l'indépendance, vont retourner contre l'Europe les idéaux produits par l'Europe, en la prenant au mot, d'une certaine manière. Oui, je ne le nie pas. Mais, justement, en fait, ceux qui l'utilisent, une partie des élites qui vont s'emparer du pouvoir, en utilisant cette idéologie mobilisatrice, vont s'empresser de mettre en place des systèmes autoritaires, corrompus, inefficaces, qui vont prolonger d'une autre manière, d'une manière beaucoup plus, si j'ose dire, indigène et locale, le mode d'exploitation et de gestion. Ce qui va déclencher à son tour, une réaction contre ces mêmes élites à qui on va dire vous êtes mauvais, vous êtes corrompu parce que vous êtes référé à une logique, à une idéologie venue d'Occident, le communisme, le socialisme, la démocratie, etc. La solution, c'est l'application de la charia. C'est ça c'est ça qui se passe, si vous voulez, quand j'arrive en Égypte en 80. C'est le moment. Ce laboratoire qui, en fait, qui se répand encore jusqu'à aujourd'hui, vous comprenez? Donc, en effet, on est quand même là dans une... Alors, vous avez ce réflexe anti-occidental, mais vous avez aussi, aujourd'hui, quelque chose d'également important. Alors, ça, je suis trop vieux pour étudier ça, parce que c'est vraiment très moderne. C'est, au fond, la montée en puissance, aujourd'hui, sur le plan économique, de ce qu'on appelle les BRICS. Il y a encore 20 ans, l'OCDE fournissait 75% de la richesse mondiale. Aujourd'hui, ça n'est plus que 45%. La Chine ayant pris une part considérable, bon, même si c'est un peu un colosse au pied d'argile, hein, on le voit aujourd'hui avec la récession chinoise. Et donc, il y a d'autres modes d'affirmation de soi à l'échelle internationale. Si vous voulez, ce qui est en train de craquer aujourd'hui, c'est le système qui a été mis en place après 1945, dont l'ONU. Et l'inefficience de l'ONU est due aussi au fait que, par exemple, le Conseil de sécurité ne représente plus la réalité des équilibres à l'échelle mondiale. La France, le Royaume-Uni sont des membres permanents. En 1945, ça correspondait vaguement au reflet. La France n'était déjà plus, mais c'est une insistance des Anglais à l'époque, paradoxalement, pour que la France soit là. Aujourd'hui, effectivement, l'Inde, je ne sais trop quoi, pourrait demander légitimement à l'Arabie saoudite, en fonction de leur PNB, une place au Conseil de sécurité. Et, par exemple, on voit bien que le règlement, si tant est, ou les tentatives de règlement de la crise au Moyen-Orient, ouverte par le 7 octobre, etc., n'est pas du tout entre les mains de l'ONU, qui est complètement à côté de la plaque. Ça se fait entre les anticipations de ce que l'Arabie saoudite va vouloir faire, de liens éventuels avec l'Europe, de la présence américaine, etc. Vous voyez, et en ce sens, alors à la fois on peut considérer que les Occidentaux sont sur la touche, mais si vous regardez l'Arabie saoudite, pays que je connais bien et j'ai rencontré plusieurs fois le prince héritier, Mohammed Ben Salman, et pour avoir eu de nombreuses conversations avec lui, il n'est plus du tout dans l'esprit du wahhabisme traditionnel. Il est complètement postmoderne, si vous voulez, à sa manière. Alors, je ne juge pas ses façons de gouverner, hein, c'est pas ça que je dis, je ne prends pas de jugement de valeur. Mais je vois bien qu'il ne pense pas comme pensait son père ou comme pensaient ses oncles ou les gens que j'ai connus autrefois en Arabie Saoudite. Et d'une certaine manière, il s'est complètement mondialisé dans son esprit, par opposition à un wahhabisme traditionnel. Donc vous avez à la fois une perte de pouvoir des centres décisionnels occidentaux traditionnels. Regardez par exemple l'armement. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait que les Américains ont tenu le Hezbollah en respect ? C'est qu'ils ont envoyé le porte-avions Gerald Ford devant les côtes libanaises. Bon, on espérait que Gerald Ford, c'était ce président américain dont on disait « He cannot chew gum and walk at the same time ». Il ne peut pas à la fois marcher et mâcher du chewing-gum. On espère pour eux que le porte-avions n'est pas comme ça, c'est-à-dire qu'il peut à la fois voguer et envoyer. Mais le porte-avions Eisenhower est venu le soutenir, heureusement, mais il est plus petit. Et donc, ça reste encore très puissant. Pendant ce temps-là, Charles de Gaulle est à la réparation à Toulon. Donc, ce qui vous dit, qui marque très... On a envoyé le tonnerre, un porte-hélicoptère. Mais bon, c'est petit. Hein. Donc, c'est ça aussi l'enjeu des... Et les Chinois construisent une flotte militaire tous azimuts, mais c'est plutôt pour le Pacifique. Vous voyez, donc, c'est là l'ambiguïté où nous sommes aujourd'hui.
On fait juste signe qu'on doit rendre la salle. Je suis navrée de vous interrompre. J'imagine que vous pourrez continuer la discussion dans le stand où il n'y a pas beaucoup d'exemplaires. Donc
voilà, uniquement après avoir acheté 5 exemplaires, vous aurez droit à une réponse. Merci beaucoup.
Bonne journée. Merci, monsieur Kepel.
Merci à vous. Barakallahu fik.